Au cours élémentaire, la maîtresse nous faisait voir notre situation excentrique, tout à gauche de la carte. Surtout pas à gauche, disait-elle. Il faut dire à l'ouest. Je me représentais alors la Bretagne comme une barque. Cette barque, sans doute, s'était embourbée du côté de ses compactes marches orientales. Mais j'imaginais quelque accident sismique, un raz-de-marée qui permettrait à la nacelle bretonne de larguer ses amarres vers plus d'ouest encore. Rêve enfantin, je le poursuis aujourd'hui dans le train de Montparnasse, entre Laval et Vitré, en guettant les signes qui, en dépit de la continuité du bocage, attestent qu'on entre en Bretagne. C'est une autre terre. La pragmatique Bretagne d'aujourd'hui arbore la fierté d'avoir su, sabot joint, sauter dans la modernité. Pourtant, l'irrationnel s'y mêle toujours à l'existence quotidienne. Ici, comme l'a écrit Charles Le Quintrec, Dieu vient chaque jour boire un verre en voisin. Elle a beau n'être pas devenue l'île de mes fantasmes d'autrefois, pour accoster, on doit rompre une amarre intérieure, prendre peu ou prou la mer.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Dans Composition française, ce merveilleux récit de son enfance bretonne, structuré par les figures imposantes de sa mère et de sa grand-mère, partagé entre l'école de Dieu et celle du diable, entre français et breton, Mona Ozouf évoque cet appel du large, ce désir fou d'évasion vers l'horizon, ce désir d'île que tous ceux qui sont nés entre Saint-Malo et Saint-Nazaire ressentent au plus profond. Et celui qui, comme moi, a eu un père marin se souvient sans doute de la première comptine apprise sur ses genoux. Qui voit Groix voit sa joie, qui voit Saint voit sa faim, qui voit Molène voit sa peine, qui voit Ouessant voit son sang. De quoi nourrir tout au long de sa vie le rêve éperdu de s'en aller finir sur une île battue par les vents où plus rien ne limite le regard. Elles sont à l'ouest, c'est le cas de le dire, ces Iliennes, la maison d'édition créée à Ouessant en 2018 par Hélène Prigent avec son amie Annick Dubosc, rencontrée à la Réunion des musées nationaux où elles ont toutes deux travaillé. 3 ans auparavant, Hélène a décidé de quitter Paris et de s'installer sur cette île qu'elle fréquentait enfant avec sa grand-mère. C'est la rencontre d'un artiste installé pour quelques semaines en résidence au phare du Créache, l'un des 5 que compte Ouessant, qui lui donne l'idée de publier ses aquarelles consacrées aux paysages, mais aussi aux habitants de son île. Et depuis, en suivi, un livre de photos de Guy Hersant, les mémoires de Louis Causan, l'un des derniers gardiens de phare, un petit abécédaire ouessantin, des livres pour enfants, et l'avant-dernier, tout à fait exceptionnel, « L'île que j'ai tant aimée », récit autobiographique écrit avant la Première Guerre mondiale par une femme étonnante, Joséphine Masson-Baquet, retrouvée par sa petite fille. Une île et des femmes. Elles seront deux ce soir pour nous en parler. Bonsoir Hélène Prigent.
Bonsoir Kathleen.
Bonsoir Annick Dubosc.
Bonsoir Kathleen.
Merci d'avoir quitté ces rivages ouessantins pour venir dans ce studio. Hélène Prigent, vous étiez parisienne, vous aviez un travail, vous avez beaucoup fréquenté les musées nationaux. Et tout d'un coup, un jour, 2015, qu'est-ce qui vous a pris ? Pourquoi partir comme ça, sur une île battue par les vents ?
Alors d'abord, j'avais déjà une maison à Ouessant et l'idée me travaillait d'y passer plus de temps. Et puis j'ai eu la grande chance dans ma vie professionnelle à Paris de travailler avec des personnes extraordinaires. Et j'ai vu cette génération partir à la retraite et remplacée par des gens avec qui j'avais moins envie de travailler. Et je me suis dit que c'était le bon moment, que je n'attendrais pas et que c'était maintenant que j'allais sauter le pas.
Ah, et en plus, vous aviez une amie à vos côtés, donc Annick Dubosc. Vous, vous êtes restée quand même un peu à Paris.
Je suis restée, mais j'ai
arrêté.
Mais
vous avez embarqué pour cette aventure.
Eh bien oui, parce que quand Hélène me l'a demandé, j'ai dit bien sûr.
Et vous, vous avez travaillé
Réunion un peu plus longtemps. Et après, je suis partie en me disant que j'allais faire autre chose, mais je ne savais pas que j'allais embarquer pour les Iliennes.
Mais c'est une aventure tout à fait formidable, parce que on a envie de redécouvrir des manuscrits qui traitent de ces îles, de cette Bretagne ancienne. Et en fait, vous étiez partie avec cette idée, Hélène Prigent, de faire une maison d'édition, ou bien c'est un hasard de rencontre?
Les deux. En fait, j'avais l'idée de faire, de mener des projets culturels, parce que c'est tout ce que je sais faire. Et c'est la rencontre avec Lapin, cet aquarelliste, qui était en résident au Sémaphore du Créage à ce moment-là, qui cherchait à publier ses dessins, qui a créé cette opportunité, cette occasion. Et c'est comme ça que la maison d'édition est née.
Alors, il y a, évidemment, je le disais en vous recevant toutes les deux, ça s'appelle Les Iliennes, vous êtes deux femmes, il y a des livres qui sont publiés par des femmes, il n'y a pas que des femmes, évidemment, mais je me suis souvenue qu'on disait beaucoup de Ouessant que c'était l'île aux femmes. On va écouter l'entretien qu'avait récolté Alexandre Hérault, qui travaillait sur culture, avec des habitantes de l'île d'Ouessant, et notamment quelqu'un que vous avez peut-être connu, Hélène Prigent, c'était Jeanne Houette, et c'est en 1997.
Surtout être femme de marin, il faut avoir la tête sur les épaules, parce qu'on a toutes les responsabilités. Hein. On décide. Quand les hommes ne sont pas là, il faut décider de tout. Hein. L'île aux femmes, oui, mais enfin, il y a toujours quand même des hommes, c'est pas uniquement l'île aux femmes. Toute la côte, à ce moment-là, ce serait la côte aussi, hein, parce qu'il y a des marins partout quand même. C'est un roulement, il y a toujours des marins à terre, mais il y a d'autres qui naviguent, d'autres à terre. C'est un roulement, hein. Alors l'île aux femmes, oui, les femmes sont seules et doivent décider de tout, hein. Oui, oui, autrefois, nos parents et nos grands-parents ont eu du mal, hein, quand même, et ils ont beaucoup travaillé, hein. Travailler la terre, quoi, beaucoup, hein. Les hommes naviguaient, mais quand même, depuis 1936, quand même, qu'il y a eu les congés payés, ça a apporté du bien-être, hein. Et plus ça allait, plus le bien-être venait, donc des facilités. Alors les gens travaillaient moins. Les enfants, fallait qu'ils soient scolarisés, donc il y avait ça aussi, hein. La vie n'est plus la même qu'elle était avant, hein. On vit ici comme on vit n'importe où, hein. Il y a tout, mais c'est une île. C'est un cercle fermé, on ne s'en va pas quand on veut. Voilà, on est tributaire du bateau ou de l'avion si on veut.
Hélène Prigent, Annick Dubosc, on entendait Jeanne Louette, cette forte femme de Ouessant qu'Alexandre Hérault avait fait parler. Et il y en a comme ça des heures formidables. Mais c'est vrai qu'elle parle de quelque chose qui a beaucoup marqué la Bretagne. D'ailleurs, pas seulement les îles, mais la côte. Les hommes étaient sur la mer, et les femmes travaillaient la terre. C'était ça. À Ouessant, ça a été longtemps, ça. J'imagine qu'aujourd'hui, les hommes ne naviguent pas forcément parce qu'il y a moins d'embarquements, souvent des marins étrangers d'ailleurs, qui occupent les bateaux. Maintenant, les Bretons restent sur l'île, Hélène Prigent.
Il y a plus d'hommes, j'imagine, aujourd'hui qu'il y en a eu de façon régulière, en tout cas précédemment. Mais en tout cas, moi je souhaitais à ce que ce soit un nom féminin, le nom de la maison d'édition, en hommage à cette culture de l'île qui est vraiment une culture matriarcale. Et c'est une amie, Sissi Duparc, qui vient très régulièrement à Ouessant, qui a trouvé le nom.
C'est un très beau nom, et j'imagine que même si il y a plus d'hommes sur l'île aujourd'hui, cette tradition des fortes femmes, elle est toujours là, vous la ressentez?
Absolument.
Elles ont pris le pouvoir et finalement elles ne sont pas prêtes de le rendre.
Bon, les hommes essaient de se défendre, comme ils le peuvent.
Annick Dubosc, comment vous ressentez-vous cette île où vous allez maintenant souvent? Est-ce qu'elle correspondait d'abord à vos rêves? Parce qu'on a toujours des rêves d'île, j'imagine.
Alors, effectivement, parce que c'était une île qu'on redoutait un peu, que tout le monde redoutait un peu. C'était quand même, depuis Paris, enfin, depuis que j'ai entendu parler de cette île il y a longtemps, c'était quand même une traversée. On n'était pas sûr d'arriver. Il y avait le « qui voit Ouessant, voit son sang ». On arrivait toujours, mais... Et c'est resté ça. Alors bon, maintenant, mais par contre, mon dernier voyage, mon bateau a été retardé et je suis arrivée, j'ai débarqué à Lampol, qui est le bourg du village, au lieu de débarquer au Stif, tellement il y avait de houle. D'ailleurs, Hélène était un peu écœurée parce qu'elle n'a jamais débarqué à Lampol. Et c'était vrai, c'était passionnant de débarquer à Lampol, c'était toute une On arrive en plein dans le village, en fait.
Oui, c'est une île battue par les vents. C'est une île où il y a 5 phares qui sont maintenant inhabités, mais qui ont été très souvent occupés par des hommes, très longtemps. Et on va parler là de cet avant-dernier livre que vous avez publié, parce qu'il est quand même assez exceptionnel. On parlait des femmes sur l'île. Ce livre qui s'appelle « L'île que j'ai tant aimée, une enfance à Ouessant au début du XXe siècle », il est signé de Joséphine Masson-Baquet, qui en plus était une femme assez étonnante, qui a passé son enfance sur cette île. Et c'est une histoire que vous racontez, et qui est racontée dans la préface signée Olivier Py, que l'on connaît bien. Les illustrations sont signées Pierre-André Ville, ce sont deux voisins sur Ouessant. Comment ce manuscrit, parce que c'était vraiment un manuscrit, est arrivé entre vos mains, Hélène Prigent?
C'est une histoire incroyable, une très belle rencontre. J'ai eu un jour un appel, j'étais à Paris à ce moment-là d'ailleurs, de Martine Bonamy, qui est la petite-fille de Joséphine Masson-Baquet, qui écrit ses textes. Et elle me dit, ma sœur m'a offert pour Noël le Louis Causan, Un feu sur la mer. Et à cette occasion, j'ai découvert qu'il y avait une maison d'édition à Ouessant. Or, je détiens les manuscrits de ma grand-mère qui a vécu à Ouessant dans son enfance. Pas toute son enfance, mais elle y vit 4 ou 5 ans, entre 1912 et 1916 à peu près. Et est-ce que ça vous intéresse de les lire? Donc j'ai dit bien évidemment. Je les ai lus et je suis tombée amoureuse de ces textes. Et c'est comme ça que la chose s'est faite. Et nous nous sommes rencontrés une première fois au Conquet. Donc moi je sortais du bateau qui venait d'Ouessant. Elle avait fait le trajet depuis Erquy. Et nous sommes rencontrés dans un café au Conquet. Et elle m'a prêté, mais je suis repartie avec la pochette en cuir vert de sa grand-mère, avec à l'intérieur tous les manuscrits.
Voilà, et c'est un livre assez étonnant, parce qu'on y découvre évidemment tous les rêves d'une petite fille, mais on découvre que Ouessant est une île habitée par des fantômes, des sorcières,
des corrigans.
Voilà, les animaux parlent un peu, on parle beaucoup aux animaux, et puis il y a beaucoup de bretons, parce que tout le monde parle breton. Et Mona Ozouf, elle aussi, elle a grandi dans le breton.
Mes parents tenaient à ce que je parle breton avant d'être, oserais-je dire, contaminé par l'école française. Ce qui ajoute au sel de cette affaire, c'est qu'ils étaient eux-mêmes instituteurs. Mais mon père tenait, voilà, à me faire d'abord baigner dans la langue maternelle, c'est-à-dire le breton. Ce qui est advenu jusqu'à mes 4 ans, date à laquelle mon père est mort. Et du coup, la contrainte s'est relâchée. Qui vivait dans la personne de ma grand-mère en coiffe, qui vivait avec nous et qui m'a élevée, mais elle tenait beaucoup au français, qu'elle parlait de façon assez approximative. Elle avait appris à lire et à écrire très tard, mais elle tenait au français comme à la langue de la promotion sociale et de la vie moins dure. Avec le français, on a la vie moins dure. Voilà. Et c'est pourquoi le breton est devenu pour moi plus livresque, hélas, que parler.
Alors dans ce livre, L'île que j'ai tant aimée, il y a beaucoup de bretons, effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, sur Ouessant encore, il est très important de parler breton, Hélène Prigent?
Hélas, non.
Non.
Seuls quelques anciens parlent encore breton. J'en ai interrogé beaucoup parce que il y avait tous ces passages en breton qui n'étaient pas tous écrits de la même façon. Donc j'avais quelques difficultés à harmoniser le tout, et c'est finalement Émilie Tiersen qui a pris en charge l'harmonisation de tous les passages en breton.
Mais ça reste, on sait qu'en Bretagne il y a les écoles d'Iwan, hein, et à Ouessant c'est en train de disparaître cette pratique.
D'abord le breton d'Ouessant n'est pas le breton des écoles d'Iwan. D'ailleurs, ça a été retranscrit, c'était pas écrit du tout comme ça dans la version originale de la grand-mère. Et non, à Ouessant, Émilie Tiersen donne des cours, il y a des gens qui suivent des cours avec elle. Elle fait aussi quelques interventions à l'école et au collège, mais on ne peut pas dire qu'il y ait une population vraiment qui parle breton.
Annick Dubosc, sur ce manuscrit, il y a eu beaucoup de travail à effectuer, ou est-ce qu'il est passé tel quel finalement?
Ah non, Hélène a beaucoup beaucoup travaillé justement pour faire traduire tous ces mots, et puis on a beaucoup travaillé, relu, Mais c'était passionnant parce que plus on le lisait, plus l'émotion nous gagnait. Enfin, moi personnellement. Et je dois dire que, mais vraiment, les lectures, parce que cette petite, au départ, c'est, il y a des moments très naïfs. Donc, moi, un peu cynique au départ, et puis finalement, l'émotion, vraiment, on est pris par l'émotion et par cette petite fille qui invente des choses et qui observe qui invente des choses avec la nature qui sont absolument magnifiques. Les rencontres avec la mer, les fleurs qu'elle va jeter dans la mer, enfin, c'est très émouvant. Et voilà.
Et, donc, et en plus, Joséphine Masson-Baquet, donc cette petite fille, est devenue une femme au destin très étonnant. C'était une femme libre, libérée, originale. Et quand sa petite fille qui vous a apporté le manuscrit la raconte, on a vraiment envie d'en savoir plus sur
Oui, parce qu'elle a fait une très belle postface.
On regrette de ne pas l'avoir rencontrée, oui.
Oui. Oui, elle raconte, vous avez lu, je suppose, quand elle raconte ses jeudis avec sa grand-mère, qui dit, on a une invitée aujourd'hui, c'est Joséphine, et elle joue... C'est une femme possédée par le théâtre aussi, qu'elle a fait avec son mari toute sa vie.
Alors, parmi les livres que vous avez publiés, il y a bien sûr le livre de Louis Causan, qui était gardien de phare, le dernier gardien de phare. Ça s'appelle « Un feu sur la mer ». C'est paru donc aux éditions Les Iliennes. C'est un livre absolument passionnant. Alors j'ai pas retrouvé la voix de, enfin si la voix de Louis Causan, elle est dans l'émission de Laure Adler, mais j'ai pensé à la famille Causan et j'ai retrouvé la voix de Jean-Yves Causan.
C'est pas la même famille.
C'est pas la même famille. Non. Ils s'appellent pareil, ils sont pas de la même famille. Bon, bah, tant pis, ça fait rien. C'était un conseiller général de Lille et Alexandre Hérault l'a fait parler en 2007 sur cette mémoire des îles et surtout le fait que bah, quand on est ilien, on n'est quand même pas du continent, c'est pas pareil.
Il n'y a plus de marins, parce qu'il n'y a plus de bateaux. Puis ceux qui naviguent sur les bateaux, on les paye moins cher et c'est plus des Bretons. Et je crois que le Ouessantin, contrairement au touriste qui vient s'acheter une maison comme dans un écomusée, il ne vit pas tellement, lui, dans le passé. On a été élevé par une culture de transmission de l'imaginaire par les histoires. On n'avait pas de télé. Donc on a vécu avec un imaginaire fort. On cherche pas à y aller, hein. C'est les gens d'ailleurs qui viennent le rechercher. Les touristes riches qui achètent des maisons et des 4x4 et qui disent pas bonjour, ils s'entendent bien avec les personnes âgées. Ils aiment bien les îles musées, ces gens-là. Nous, on n'est pas du tout là-dedans, hein. Moi, j'ai fait beaucoup de musées ici, l'écomusée du New, les Phares et Balises, etc. Parce qu'il faut exalter notre patrimoine. Mais le Ouessantin d'aujourd'hui, il vit pas tellement dans ce passé-là. Il vit dans le présent. Et avec tous les tiraillements et les contradictions du présent, je suis Ouessantin. Je suis pas comme un Brestois, mais je veux être éclairé comme dans la rue de Siam. Et pourquoi j'ai pas les mêmes avantages qu'en ville, mais je veux pas qu'on m'embête, je veux être différent, je veux pas des règlements. On a été enrichi de la culture du passé, mais on ne cherche pas à vivre là-dedans, et on n'en a pas la nostalgie d'ailleurs. Il y a une fierté d'être différent, parce que dans la société actuelle, tout le monde doit être pareil. Or, l'île, c'est différent, et ça agace les gens du continent, hein.
Alors, le Ouessantin ne vit pas dans le passé. Alors justement, ce livre, L'île que j'ai tant aimée, Hélène Préjean, comment est-ce qu'il a été reçu sur l'île? Parce que, est-ce que c'est vrai? Est-ce que du coup, maintenant, tout le monde est tourné plutôt vers le monde d'aujourd'hui, la télé? Est-ce que, en dehors des anciens, comment ce livre a-t-il intéressé les Ouessantins jeunes d'aujourd'hui qui vivent sur l'île?
En effet, il intéresse plus les jeunes que les anciens. Et c'est parce que moi, je ne suis pas Ouessantine, sans doute, que je l'ai plus publié. Je ne suis pas sûre qu'un ancien l'aurait fait. Enfin, je suis même
sûre
du contraire.
Pourquoi?
Parce que ce que dit Jean-Yves Causan est très juste. Ben, les gens vivent aujourd'hui. Alors que moi, je suis très attachée à la transmission, à la mémoire, à la conservation de cette mémoire qui disparaît. Il y a toute une génération de marins de commerce qui est en train de disparaître. Et moi, je suis très attachée à conserver ces mémoires-là.
Mais on imagine assez facilement que dans les familles de l'île, il y a les marins tenaient des journaux de bord ou envoyaient des lettres. Il doit y avoir des récits de voyages à l'autre bout du monde. Annick Dubosc.
Alors ça, moi, je j'ai pas accès à tout ça, mais Hélène prépare. Enfin, il y a des témoignages. Elle recueille les témoignages parce qu'il y a pas de Il n'y a pas d'écriture vraiment. Et donc, elle cherche les témoignages.
Pour faire raconter, enregistrer, voilà. Retranscrire.
C'est un projet de future édition.
Des témoignages oraux, à partir de témoignages oraux.
Voilà. Donc, ouais. Et moi, je retranscris un peu parfois certains témoignages. Et voilà. Donc, mais on alors, en est là.
Ce qui est intéressant dans ce que disait Jean-Yves Causant aussi, c'est qu'on sent très bien qu'il y a une sorte d'engouement, surtout depuis la crise actuelle, la pandémie, ce désir d'ailleurs, les Parisiens ou les gens du continent, peu importe d'où ils viennent, qui achètent des maisons sur l'île, qui viennent en vacances et qui de plus en plus viennent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se creuse sur l'île, justement, entre ceux qui sont de purs Ouessantins, ceux qui viennent? Comment se passe la cohabitation, Hélène Prigent?
Ce n'est pas si simple, en effet. Parce que alors, les gens qui viennent du continent ont un surnom, ce sont les chinchards,
oui.
Qui est le nom d'un poisson qui ne se déplace qu'en banc. Et les Ouessantins ne font absolument la différence entre un chinchard et un Ouessantin. Et la chose ne sera jamais assimilable. Quelqu'un du continent ne sera jamais Ouessantin, même s'il y vit depuis 40, 50 ans. Le plus beau compliment qu'on m'ait fait, un vieux monsieur qui a dit « Mais non, toi, tu n'es pas une chincharde, Hélène, tu es une mouligaine. »
Ah.
Une mouligaine, c'est-à-dire une fille du continent.
Oui, une fille du continent.
Qu'on voit dans ma Madaleine, dans l'île que j'ai tant aimée, est une mouligaine. Et j'ai pris ça comme un très grand compliment.
Bon, mais ces six livres que vous avez publiés déjà, on imagine qu'ils sont en vente dans la librairie, dans le relais de poste de Ouessant. Est-ce que les Ouessantins guettent la sortie des nouveaux livres? Est-ce que ça les intéresse?
Ils étaient très intéressés par le premier, parce que nombre de Ouessantins y étaient portraiturés. Ensuite, tous ne les intéressent pas. Ceux qui ont des enfants aussi peuvent être intéressés par les éditions jeunesse.
Oui, Un amour de cailloux, ça justement dans lequel il y a Béatrice Gernot, l'auteur, parle des chinchards.
Oui.
Il y a une très jolie illustration de c'est Juliette une sorte Lagrange.
Une sorte d'abécédaire illustré.
Si vous regardez assez, vous allez trouver chinchard avec une queue très 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 bien faite. Et puis alors Ruta Baga aussi, mais je sais plus pourquoi je parlais des livres pour enfants.
En fait, les gens qui lisent suivent nos publications, mais tout le monde ne lit pas.
Voilà. Puis il y a beaucoup de touristes en fait qui arrivent, les chinchards justement,
et qui eux sont intéressés. Ouais.
Voilà. C'est plus.
finalement, ils n'ont pas que des inconvénients, ces chinchards.
La maison de la presse de Ouessant est contente de connaître Hélène.
Oui.
Et les Iliennes.
Et puis, sur l'île de Ouessant, y a un compositeur et un musicien qui a installé son studio. Il s'appelle Yann Tiersen. Thank you.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Ah, c'est une île qui se mérite. Elle s'offre à tout le monde, mais ceux qui la respectent. Sinon, elle devient aussi méchante qu'elle peut être bonne. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a qu'à regarder, réfléchir et respecter. Quand tu as tout compris ça, tu peux rester avec ça. Voilà. Et surtout respecter les gens qui étaient là avant toi. Quoi. Moi qui suis berrichon et qui est arrivé là comme ça, j'ai respecté les gens avant, et l'île aussi d'abord. Et après, c'est ce qui m'a permis de rester là. On devient éventuellement un insulaire. Et tu vois, Saint-Tin, il faut être deux, trois générations avant de devenir Saint-Tin. Voilà, je suis un insulaire, donc on ne prend plus pour un chinchard, ce qui est déjà pas mal. J'ai monté d'un cran, quoi.
Oh, on les appelle les chinchards, mais c'est pas une insulte, hein. C'est comme... Non, parce que le chinchard, c'est un poisson et qui vit dans la mer, mais en bande, toujours en bande, groupé. Alors, quand ils arrivent, ils nous prennent tout le chemin, alors on dit, ceux-ci sont comme les chinchards. On les appelle pas les envahisseurs, hein. On les appelle les chinchards, c'est plus gentil quand même.
On entendait Dédé Lafleur, qui est un berrichon, mais qui avait été finalement accepté au bout d'un certain temps quand même sur l'île. Alors, on va revenir justement, grâce au Saint-Char, à Un amour de caillou, cet adorable petit livre. Les textes sont de Béatrice Gernot et les illustrations de Juliette Lagrange, que vous avez publié. C'est un petit abécédaire ouessantin et on y découvre plein de choses qu'on ignore. Donc, béguin, par exemple, c'est pas avoir le béguin du béguin. Tout. Béguen, ça se dit béguen.
Ça
voilà.
Se dit béguen.
Voilà. Alors, c'est quoi, Annick Dubosc,
c'est, les béguen? C'est des petits chaussons que vous mettez chez vous. Et puis, quand vous sortez, vous gardez vos petits chaussons et vous les mettez dans les sabots. Et donc, et c'est tricoté avec la laine des moutons de Ouessant.
La laine des moutons. Il paraît qu'Hélène Prigent a des moutons aussi, en plus de faire des livres.
Oui.
Et que faites-vous avec vos moutons, Hélène Prigent?
Je leur parle.
Ah ben, il faut.
Je vais les voir tous les jours, ou presque. J'ai 4 brebis et 6 agneaux.
Félicitations. Des agneaux qui viennent de naître, en plus. Et alors, les craves, c'est quoi les craves?
C'est des oiseaux un peu bizarres. Mais il ne faut pas confondre avec les crabes, d'ailleurs. Ça n'a rien à voir. On les reconnaît à leur bec rouge et leur patte rouge. Voilà.
Voilà. Et alors, laquelle de vous deux cuisine dans les mottes?
Aucune.
Aucune. Alors il faut dire, c'est assez étonnant ce procédé. Ça continue de nos jours parce que les grands-mères le faisaient. Alors il faut expliquer ce que c'est. Oui. Allez-y.
Le principe, c'est de faire un trou dans la terre dans lequel peut passer une marmite. Et ensuite, tout le fond du trou est tapissé de mottes, de tourbe. On met la marmite avec du mouton. Et on recouvre ensuite complètement cette marmite à nouveau de tourbe. Et c'est une cuisson à petit feu qui dure très longtemps et qu'utilisaient les femmes, en fait, pendant qu'elles étaient au champ. Ça leur permettait de préparer à manger sans être devant leur cuisinière.
Mais ça se fait encore aujourd'hui?
Ça se fait encore, oui.
Ou c'est folklorique ou bien les gens le font parce qu'ils trouvent ça bien? Non, parce que tout le monde maintenant a des cuisinières, du gaz.
Oui, mais c'est succulent.
C'est succulent.
Ah oui, ça change vraiment.
Ah oui.
Oui, il y a des gens qui continuent de faire.
Oui, oui.
Pas seulement pour le folklore, du ragoût dans les mottes.
Mais alors, quand même, on se demande, en ce moment, on sait bien qu'en France, partout, il y a un renouveau des traditions, de se relier à ses racines, de retrouver les gestes d'autrefois, bref, de revenir à la terre. Est-ce que Ouessant, on disait, les gens ne s'intéressent qu'à la vie d'aujourd'hui, mais est-ce que ce mouvement-là, il est ressenti aussi sur l'île?
En tout cas, il y a plusieurs initiatives de la commune pour que l'île soit de nouveau cultivée, par exemple. Il y a un vrai projet de relance agricole avec à la fois de l'élevage et donc une production de beurre, de fromage, de lait sur l'île, ce qui n'existait plus.
C'est sur Ouessant qu'on a vu arriver récemment couple d'agriculteurs avec leurs vaches.
Oui, c'est ça. Oui.
Et ça veut dire que la mairie de Ouessant, les maires, insistent pour avoir des nouveaux agriculteurs, pour repeupler un peu l'île aussi?
L'île est assez peuplée. Hein. Il y a eu vraiment un regain d'arrivées et de naissances aussi. Mais ça, enfin, ces deux agriculteurs-là, oui, c'est un projet municipal. Mais il y a aussi une jeune Ouessantine, Charlène Créage, qui elle a pris une quarantaine de brebis Et elle, elle fait du fromage de brebis qui n'existait pas non plus sur l'île.
Et donc, l'île se repeuple, parce qu'on dit qu'il y a 850 habitants sur Ouessant, ça, récemment, il y a plus de gens qui viennent, il y a plus d'arrivées que de départs.
Oui.
Ouais.
Oui. Il n'y a plus de maisons à vendre quasiment. Oui, l'île est assez peuplée.
Alors, on va redonner la parole à quelqu'un qui a écrit sur l'île de Ouessant. Elle s'appelle Françoise Perron et Alexandre Hérault l'avait fait parler en 2007. Et on sentait qu'elle avait un regard un petit peu pessimiste.
Ce rêve d'île, il va faire venir des continentaux aussi sur l'île. Des jeunes souvent, ou des gens qui ont déjà bourlingué, vécu leur vie, qui sont un peu en difficulté, puis qui se disent, eh ben là, tout va être parfait. Et en général, mais ça c'est connu dans toute la littérature insulaire, le rêve est beau au départ, et puis très vite, le rêve va tourner, et souvent il tourne au cauchemar. Il tourne au cauchemar parce que c'est très dur de vivre dans une île, parce que les règles sociales, les règles de vie avec les autres sont des règles qu'il faut très, très fines, très subtiles et extrêmement nombreuses. Parce que si vous comportez mal, si vous faites exploser les règles de l'île parce que vous n'en pouvez plus, il n'y a pas 50 solutions. Ou bien on vous fait revenir à la raison d'une façon brutale, ou bien vous devez partir. Il n'y a pas d'autre solution, parce que il n'y a pas de marge. On ne peut pas partir à la lisière dans un bois, etc. Je veux dire, on ne peut pas se mettre en marge. En l'île, on est toujours en société. Et on est toujours sous la surveillance des autres.
Alors, un rêve, bon, on est nombreux sur le continent à caresser des rêves qu'on ne réalisera pas forcément de partir sur une île. Des gens le font. Vous l'avez fait, Hélène Prigent, même si vous aviez des racines un peu dans le coin. Mais est-ce que, effectivement, comme le dit Françoise Perron, il y a des expériences qui tournent court parce que vivre sur une toute petite île, c'est vivre sous le regard des autres et c'est respecter des règles qui sont pas forcément faciles ni légères. C'est comme ça que ça se ressent.
Oui, ce qu'elle dit est très juste. Mais ce que disait aussi tout à l'heure, je crois que c'était Dédé Lafleur, si on respecte l'île et les gens et qu'on n'arrive pas en terrain conquis et en conquérant, ça se passe très bien.
Parce qu'on y rencontre aussi quelque chose qui s'appelle la solidarité.
Oui.
Et ça, en ce moment, c'est un sentiment qui manque souvent.
Mmh. C'est vrai qu'on vit toujours sous le regard des gens. C'est un monde en concentré, Ouessant.
Annick Dubosc, vous qui y allez, alors qui ne vivez pas sur l'île, mais qui y allez souvent, comment est-ce que vous voyez justement cette vie si particulière de l'île? Et en plus, comment ressentez-vous le regard des Ouessantins sur vous qui êtes une étrangère?
Je peux pas dire que... Non, ben, ils sont extrêmement sympathiques, mais comme ils savent que je vais pas m'installer, leur regard est plutôt favorable. Mais c'est toujours très émouvant d'arriver, parce que c'est magnifique d'arriver en bateau, de découvrir. Arriver dans une île, je trouve que c'est très émouvant, toujours. Et partir, c'est quitter quelque chose aussi. Donc à chaque fois, pour moi, personnellement, mon ressenti, c'est très émouvant. C'est une arrivée, un départ, mais on est très bien accueillis, hein.
Mais Hélène Prigent, est-ce que par exemple, là depuis qu'on dit que beaucoup de gens qui vivent dans les villes cherchent à s'échapper, j'ai vu passer quelque part qu'il y avait un projet d'espace de coworking sur Ouessant?
Oui, qui est créé, ça y est. Il a ouvert en avril et c'est ouvert à tous les gens qui travaillent de chez eux ou qui ont besoin d'un lieu de travail, les gens qui viennent pour quelques jours... Et ça fonctionne, ça intéresse les Ouessantins. Il a été entièrement meublé par des Ouessantins, d'ailleurs, qui ont donné des meubles, des équipements.
Eh bien voilà, la pandémie réussit aussi à Ouessant. En tout cas, longue vie et bonne vente à ces éditions lésiliennes. Vous trouverez sur le site de l'Humeur Vagabonde les listes de livres publiés. Merci à toutes les deux. Bon retour dans le grand vent.
Merci à vous.
Merci.